Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, reportage sous forme de visite guidée à la découverte de la nouvelle exposition de l'écomusée de la Bintinet à Rennes. Fleurs au-delà des apparences, c'est à voir depuis le 30 novembre et jusqu'au 31 août 2025. Tarif plein pour y accéder 5 euros et deux animations autour des fleurs seront par ailleurs proposées au public les 26 janvier et 29 juin 2025. Le détail est à retrouver en ligne sur le site écomuseerennes-metropole.fr.
Nous tous et toutes, elles nous retiennent surtout notre attention par leur beauté, leur esthétique et un peu la fascination qu'elles exercent. Mais en réalité, en étant à l'écomusée, le but, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qu'on connaît d'elles. Sarah Thérapis, chef de projet sur l'exposition Fleurs. Ce premier espace d'exposition, le premier parti pris, c'était déjà de rappeler ce qu'est une fleur, à savoir qu'une fleur, elle intervient vraiment à un moment précis dans la vie d'une plante, à savoir au moment de sa reproduction, pour ce qui est des plantes à fleurs. L'idée également de cet espace, c'était finalement de présenter les différents milieux et les différentes formes sous lesquelles les fleurs pouvaient intervenir, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien la retrouver sur une fleur-tige comme l'hortensia à la rose, aussi bien la voir fleurir dans les pommiers que la retrouver dans les landes ou encore la découvrir sur des plantes de légumes, par exemple. On découvre que finalement, il n'y a pas réellement de milieux qui vont être complètement vierges de la main de l'homme. Tous ont été à un moment donné travaillés, exploités par les hommes, et notamment à des fins agricoles, où notamment, que ce soit la bruyère ou la jonc, étaient utilisés comme complément alimentaire pour le bétail, ou encore comme litière finalement pour les animaux. Et donc dans ce panorama, on se rapproche vraiment progressivement des habitations. Et en fait, plus on se rapproche des habitations, plus c'est une fleur qui va être maîtrisée, parfois un peu dévaluée, et la fleur un peu d'ornement va être privilégiée à la fleur utilitaire. Sur le deuxième espace, on a un dispositif qui reprend les quatre saisons de Lucien Poudras, qui est donc un artiste local, où là, le parti pris, c'était de pouvoir montrer que la fleur, comme je disais tout à l'heure, intervient à des saisons particulières et selon un rythme particulier.
L'hiver, on laisse le sol faire son boulot. Oui, il fait ce qu'il veut. Le temps qu'il veut, il y a quand même un peu de fleurs jaunes, de la jonc, qui perce à travers la gelée blanche, ce qui est d'ailleurs remarquable en hiver. Et bien là, j'ai beaucoup d'ajonc qui est en train de maturer tranquillement. Elle va passer l'hiver et je viendrai la chercher petit à petit pour les amener à mon étable.
Donc en matière scénographique, on a aussi un vrai parti pris qui a été pris, où là l'idée était vraiment d'être à l'extérieur d'une habitation, d'avoir la prochaine séquence et les deux premiers espaces qui représentent des espaces intérieurs. Et ensuite on va se retrouver à nouveau dans un parc à l'extérieur, donc il y a tout un travail scénographique qui a été mené. On a mené un travail aussi d'éco-conception avec Vast, qui est du coup des scénographes basés à Paris, qui ont vraiment pris en main ce sujet-là et qui ont vraiment essayé de faire le maximum avec ce qui était déjà présent, soit ici à l'écomusée ou dans nos stocks de matériel notamment, avec environ les trois quarts des cloisons par exemple qui ont été récupérées, et tout un travail de réemploi de cloches, de cimes qu'on avait déjà, mais également l'usage de nouveaux matériaux tels que la terre, le liège ou l'osier, qui permettent de faire intervenir une dimension plus naturelle dans l'exposition et qui aussi un plus faible impact environnemental. On rentre ici dans le premier espace, la première séquence de l'exposition, où l'idée a été ici d'explorer la représentation de la flore, à la fois sous une dimension scientifique et artistique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'elle se combine. Donc on a ici, dans cet espace, différents supports qui vont être conçus dans le but d'arriver à étudier la flore quelles que soient en fait les périodes de l'année. Et donc on a les modèles pédagogiques qui permettent de les analyser en toute saison, ou encore les herbiers et également les fluides qui, en l'occurrence là, ont fait l'objet d'une médaille du mérite agricole, puisqu'elles permettent de conserver à la fois la couleur des fleurs, mais également présenter les fleurs dans toute leur tridimensionnalité, ce qu'on n'a pas forcément finalement avec les herbiers. On a également dans cet espace un focus un peu plus particulier sur le dessin botanique. Il y a toute une recherche qui est menée en association entre des artistes et des botanistes pour mieux représenter la flore. Et donc ce travail-là a une vraie vocation à un moment donné, où notamment on va avoir les grandes expéditions coloniales, d'arriver à expliquer et circonscrire un petit peu aussi le vivant. Donc la fleur, c'est assez intéressant dans le cadre général de la botanique, parce que c'est l'élément qui est utilisé pour classifier les plantes à fleurs. Donc c'était un petit peu aussi l'idée du dispositif qu'on a ici. On a sous forme d'un quies qui est assez connu de tous, l'idée d'apprendre à reconnaître chaque famille de fleurs. On a ici un dispositif qui s'intéresse un petit peu plus à l'appellation vernaculaire des plantes. Et donc l'idée était d'avoir à chaque fois une plante et de révéler derrière une anecdote qui évoque la raison de l'appellation de telle ou telle plante. Par exemple, le rosier des chiens, dont les racines étaient utilisées pour soigner les morsures de chiens. Donc on poursuit toujours dans la première séquence de l'exposition, où là on s'intéresse davantage à la dimension artistique. Donc certains artistes, notamment de l'Art Nouveau, sont assez réputés pour avoir utilisé le végétal de façon globale, et plus particulièrement la fleur, comme source d'inspiration. C'est le cas par exemple d'Émile Gallet, qui est une des figures majeures de l'Art Nouveau, qui a également produit des essais scientifiques et botaniques. Il y a vraiment une recherche précise, même dans la stylisation des formes, d'arriver à la nécessité de connaître la flore. Dans l'exposition, on retrouve à d'autres endroits des tableaux plutôt beaux-arts, mais là, il y avait un focus un petit peu plus précis qui voulait être porté sur la peinture de fleurs, et en particulier cette ambivalence qu'il y a entre la pratique de la peinture de fleurs et le genre pictural, puisque la nature morte est un des genres les plus dévalués dans la peinture. Donc le grand genre, c'est la peinture d'histoire. Et en fait, c'est intéressant parce que la personne qui a théorisé la hiérarchie des genres l'a opéré en fonction de la représentation de la figure humaine dans les tableaux. Et moins on voit d'humains dans les tableaux, moins les tableaux ont d'importance. Et aussi une histoire de genre, parce que finalement la peinture de fleurs était un genre majoritairement pratiqué par les femmes, puisque cela ne nécessitait pas de suivre des cours d'anatomie de nu qui étaient généralement mal vus pour les femmes d'y participer, dont les cours étaient complètement même... C'était interdit de participer à ces cours-là. Et donc c'est parfois le seul genre dans lequel elles vont réussir à s'illustrer et parfois en faire une profession rémunératrice, mais ce qui est quand même très rare. Flowers for all seasons and all seasons for my love. A scent of evergreen colors the pictures of today. Donc on va avancer dans la deuxième séquence de l'exposition. Ici, le parti pris a été plutôt évoquer la déambulation dans un parc. Donc on voit que l'espace est assez sinueux, comporte des îlots dont la source d'inspiration pour les scénographes a été le Tabor. On est plutôt autour de la question de la portée symbolique des fleurs et la façon dont elles accompagnent les hommes et les femmes au quotidien. Ici, donc, dans ce premier espace, l'idée était d'évoquer les nombreux parallèles qui ont pu être faits entre les femmes et les fleurs, en ce qu'elles représentent ou ce qu'elles suggère une forme de fragilité, de délicatesse, ce qui est relativement contraire à une forme de réalité. On va avoir ce type de carte postale un peu ethnographique, dont le but va être de représenter un peu les costumes, les coutumes et les mœurs dans chaque région. Et donc l'idée était ici de montrer un petit florilège de cartes postales où on a une indistinction entre est-ce que c'est la femme qu'on évoque dans ces cartes postales ou est-ce que c'est la fleur. Et en réalité, le but c'était aussi de montrer que dans les faits, en tout cas en Bretagne, les femmes prêtaient vraiment main forte dans les travaux agricoles et n'étaient pas vraiment des jolies fleurs comme ces cartes postales le laissent à penser. On va avoir du coup un événement comme celui de la Rosière où le lien vraiment entre femmes et fleurs est extrêmement ténu. Donc les fêtes de la Rosière auraient pris leur source en 525, qui est en fait un événement public dont le but était de récompenser une jeune femme qu'on juge méritante et vertueuse. Cette jeune femme-là, on va la couronner généralement de fleurs et en particulier de roses. Les roses qui font directement écho notamment à la figure de la Vierge, qu'on appelle également la rose des roses ou la rose sans épines. Et en fait, ces concours-là sont assez symptomatiques d'une société qui cherche finalement à contrôler la vertu des femmes, et y compris des classes les plus populaires finalement, où en fait elles postulent à ce concours-là et sont récompensées d'une somme d'argent si elles passent par un certain nombre de validations. Et à chaque fois, elles font l'objet vraiment d'une recherche approfondie. Donc il y a le commissariat central qui essaye de voir si elles sont blanches comme neige. Et de même, il y a les employeurs parfois qui sont sollicités, ou encore les voisins, pour connaître vraiment la bonne moralité de ces femmes-là. Donc les fleurs sont effectivement omniprésentes au fil des cycles de la vie. Et elles interviennent notamment fréquemment pour déclarer les émotions. Et en particulier, on a les traditions de mai qui se déroulent un petit peu partout sur le territoire. Alors, ce n'est pas spécifique à la Bretagne, où en fait, de jeunes hommes, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, allaient déposer soit des bouquets de fleurs ou des branches d'arbres bourgeonnantes aux portes et fenêtres des jeunes filles pour leur déclarer leurs sentiments. C'était à la fois pour évoquer des émotions positives, mais aussi bien parfois pour faire ressortir les traits de caractère qui pouvaient apparaître comme étant déplaisants. J'ai oublié de l'évoquer, effectivement, on a aussi au fur et à mesure du parcours différents bancs où on a des dispositifs d'écoute. Donc à chaque écouteur, il y a une chanson qui est diffusée avec les paroles de chansons qui sont associées. On a travaillé en lien avec Destume, qui fait du collectage de témoignages et de chants de tradition orale.
Beaucoup de chansons de tradition orale mettent en scène la rencontre entre une jeune fille de basse condition et un homme riche ou un seigneur. Souvent, la rencontre a lieu auprès d'une fontaine et parfois dans un jardin. Dans la chanson de Cadin qu'on va entendre ici, la rencontre se fait dans un jardin de fleurs. On écoute une version de cette chanson relativement rare, enregistrée auprès de Marie-Claire Prévert à Pipriac en 1976 par Albert Poulain.
La fleur est également souvent utilisée comme métaphore pour évoquer les relations sexuelles ou même la sexualité de la femme. Donc là, on a deux exemples avec la rose mal défendue. C'était un motif fréquemment utilisé au XVIIIe siècle pour évoquer, en évitant la censure, la sexualité et parfois la perte de virginité de la femme. D'ailleurs, on dit plus facilement d'une femme qu'elle se fait déflorer que d'un homme. Et d'ailleurs, c'est une période à partir de laquelle où on va retrouver une vérité qui avait été un petit peu oubliée, celle que la fleur est en fait la partie qui sert à la reproduction. Et ça va créer une vraie onde de choc dans la société de l'époque, parce que la fleur était alors associée à quelque chose de pur, de virginal, et de découvrir qu'en fait c'est l'appareil reproductif des plantes, ça va vraiment choquer les contemporains. Ce qui mènera aussi à interdire les femmes à accéder à des cours parfois d'enseignement botanique pour cette raison-là. La fleur est également omniprésente dans le cadre du mariage. Là, on a une tenue qu'aurait pu porter une mariée en Ille-et-Vilaine, où ici, la fleur d'oranger, parce que c'est en fait de la fleur d'oranger en cire, vient un petit peu caractériser une tenue qui est relativement sobre. Il y a une vraie mode qui intervient autour de la fleur d'oranger en cire avec le mariage de la reine Victoria. Et en fait, cette mode-là va vraiment se répandre un petit peu partout en France, des années 1890 environ jusqu'aux années 40, où c'est en réalité de la cire mélangée à de la paraffine qui va permettre de former des boutons qui, s'ils sont incisés, permettent en fait de produire ensuite des couronnes telles que celle-ci. C'est vraiment aussi une production qui va être très localisée, puisqu'il y a un grand centre de production à Saint-Joachim, près de Guérande. La fleur dans le mariage, on voit qu'elle est omniprésente quelles que soient les époques et sous différentes formes, que ce soit dans les costumes, dans l'ornement de la mariée ou dans le décor au moment du mariage. Et on a trois globes de mariée qui sont des objets qui de nos jours apparaissent comme étant un peu mystérieux, mais qui étaient en réalité extrêmement populaires fin 19e, début 20e. c'était des objets qui étaient fréquemment offerts par les tantes, les mères ou les marraines aux épouses. Et donc, en fait, elles venaient à la fin de leur mariage y déposer sur un coussin les couronnes qui les ont couronnées pendant leur mariage. Et tout au cours de leur vie, elles vont les agrémenter et y venir y placer des objets qui vont un petit peu raconter l'histoire familiale. Et on a donc dans la dernière partie de cette séquence-là un focus sur le lien entre la vie, la mort et la fleur, où en fait elle est souvent utilisée comme métaphore de la fragilité de l'existence humaine. On va avoir notamment deux belles natures mortes donc de vanité qui réévoquent la fleur coupée en fait comme d'autres éléments comme le crâne, le sablier ou encore les bougies évoquent la vie qui s'étiole et ramène finalement à avoir un petit peu plus d'humilité en se rappelant sa condition de mortel finalement. Et en fait, on a effectivement de façon globale une présence importante de la fleur au moment du décès et des funérailles, des fleurs qui sont déposées sur les tombes. Et en particulier, du coup, on a deux exemples ici de couronnes mortuaires qui sont utilisées aussi pour combattre un peu le temps qui fuit. Et les fleurs ici témoignent du souvenir et du lien qui unit les personnes disparues à leurs proches. Et donc là, on rentre donc dans la troisième et dernière séquence de l'exposition où le but était de questionner notre rapport à la consommation de la fleur, donc du 19e jusqu'à nos jours, et notamment de questionner le moment où on passe de la fleur utile à la fleur qui va être entre guillemets inutile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment avec les grandes expéditions coloniales, on va de plus en plus s'intéresser à des plantes qu'on ne connaît pas. Et en fait, toutes celles qui vont avoir une dimension parfois utilitaire, qui vont servir à l'alimentation par exemple, vont être un peu dévaluées par rapport à des plantes exotiques. L'idée, c'était aussi de donner à voir ce qu'est la sélection. C'est tout le travail qui est mené pour aboutir à une plante qui va correspondre à des critères particuliers valorisés par les humains. La sélection a été opérée, par exemple, dans la production de la clémentine, où en fait on va vouloir produire un fruit qui va à la fois avoir des caractéristiques propres à l'orange et à la mandarine. Et en fait, ce travail de sélection, il se fait par la pollinisation de la fleur. Et en fait, ici, c'est un petit peu le même travail qui est fait par Michel Adam, qui est donc un rosieriste obtenteur, dont le métier, c'est de créer de nouvelles variétés de roses.
Je vais hybrider ce rosier-là. Donc pour hybrider, il faut choisir une rose qui ne soit pas pollinisée, c'est-à-dire qui ne soit pas auto-fécondée. Là, je vais la déshabiller. Voilà, j'enlève les pétales délicatement. On est au cœur de la rose.
Il y a une démocratisation vraiment progressive des fleurs et des plantes. Alors ça va avec la révolution industrielle où les techniques de reproduction des plantes sont de plus en plus évidentes. On va avoir un tableau qu'on a souhaité mettre en valeur qui est celui-ci, qui représente l'épisode de la tulipomanie. Donc en fait c'est ce qui aurait constitué le premier krach boursier de l'histoire. En fait, il y a un tel engouement qui se développe autour de la fleur et de la tulipe au XVIIe siècle qu'il va réellement y avoir tout un marché spéculatif autour de l'achat des bulbes de tulipes. Donc c'est à l'origine des bulbes qui viennent du Kazakhstan, qui ont ensuite été ramenés en Turquie, puis offerts en cadeau diplomatique aux Pays-Bas. On a également souhaité poser la question du local et de la consommation. Alors, le but n'était pas de culpabiliser les consommateurs, mais plutôt d'informer sur les réalités qu'il y a derrière la production et la consommation des fleurs. On a plus conscience de consommer plus judicieusement des fruits, des légumes, des produits qu'on va consommer. On a un petit peu moins conscience parfois quand il s'agit des fleurs, et pour autant, les impacts sur l'environnement et les humains sont assez importants. Et donc, en regard, on va avoir cette projection qui va être une série de vidéos qui ont été réalisées avec trois floricultrices qui produisent localement des fleurs. Donc, une autre agriculture et consommation est possible. Et donc, l'idée était de finir sur une note positive et de mettre en valeur, du coup, ces initiatives-là.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.